Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. On fête aujourd'hui les 30 ans de la loi Evin, fêtée sans alcool bien sûr. Loi qui a révolutionné la communication autour du tabac et de l'alcool et à laquelle on a rajouté dans le temps d'autres améliorations, pour ne pas dire restrictions, pour la santé et le bien-être bien sûr de nos concitoyens. Loïc Chasseran, président de l'Alliance contre le tabac, et Bernard Basset, président de Addiction France, sont sur le plateau de Check-up santé. Il vient de publier son ouvrage intitulé « Journal incorrect d'un médecin légiste ». Michel Debout nous fait découvrir sa spécialité peu connue et qui ne s'intéresse pas qu'aux morts. Enfin, elle tient une place de plus en plus importante dans le domaine de la santé, l'impression 3D. Eh bien, elle tient son premier congrès Additive Médicale France le 26 janvier prochain. Son directeur, Alexandre Martel, nous y invite. Tabac, alcool, crime et masque 3D, ce sont les ingrédients du Polar Check-up Santé aujourd'hui. Michel Debout, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes psychiatre, professeur de médecine légale, et vous publiez Journal incorrect d'un médecin légiste aux éditions de l'Atelier et Fondation Jean Jaurès, et non pas Journal d'un médecin légiste incorrect, évidemment.
Oui, bien sûr.
Alors, vous avez beaucoup fait, on le sait, vous avez beaucoup fait pour votre métier, pour votre spécialité, la médecine légale. On pourrait penser, j'ai lu votre livre de A à Z, vraiment super intéressant, on pourrait penser que votre livre est une succession de faits divers. Bien non, il s'agit aussi d'une réflexion philosophique sur le rapport à la violence physique et mentale et à la mort, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on imagine le médecin légiste dans son laboratoire, sombre, froid, mais peu de gens savent que le médecin légiste s'intéresse aussi aux morts, mais aussi aux vivants.
Tout à fait. On est les spécialistes des violences, que ces violences soient accidentelles, qu'elles soient volontaires, meurtrières.
Et qu'elles aient provoqué la mort ou pas.
Et suicidaires.
Mmh. Et suicidaires, oui.
Mais qu'elles aient provoqué la mort ou pas, comme vous le dites. Mmh. Donc on s'intéresse beaucoup plus à des victimes vivantes qu'à des victimes décédées, puisqu'on sait que les violences entraînent plus de blessures que de morts. Et dans des proportions de 1 à 10. Donc, alors, si vous voulez. Notre quotidien, c'est autour de personnes vivantes. Mais aussi, le corps des morts. Mais ce corps des morts, il y a autour des morts. Il y a aussi des vivants qu'on doit prendre en compte dans leur douleur, dans leur deuil. Et ça, c'est très important.
Alors justement, votre livre commence par une espèce de révolte, une indignation sur le sort qu'ont subi les morts du coronavirus lors du premier confinement. Alors que on sait qu'un mort n'est pas contagieux au bout de quelques heures.
Ben voilà. Mais ce que je vais vous dire, ce que j'ai écrit dans le livre, je l'ai publié dès le mois d'avril. Mm-hmm. Je ne viens pas à la fin de la bataille pour dire voilà comment il aurait pu faire. J'ai trouvé. On nous dit aujourd'hui qu'il faut que les personnes âgées dans les EHPAD donnent leur consentement. Mais est-ce qu'on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour qu'on interdise leurs familles, leurs proches, leurs enfants, leurs petits-enfants de venir les voir?
En appliquant les gestes barrières,
évidemment. En appliquant les gestes barrières de protection. On pouvait très bien l'organiser. Sauf qu'on n'avait pas de masque, on n'avait pas de blouse de protection, on n'avait pas de surchausses. Donc, on a organisé l'interdiction et ça a été vraiment... Ça a
eu un effet. Le pire, c'est ce qui s'est passé autour de la gestion de la mort.
Et un effet terrible pour ses proches, pour les proches aussi, pour les personnes d'abord, et pour leurs proches. Et on n'a pas comptabilisé ceux qui en sont morts. Et par rapport à ces morts, justement, pourquoi tout de suite les ôter du paysage, j'allais dire. C'est terrible, ça. Parce que non seulement le deuil, sur le plan psychologique et sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, on a besoin de se recueillir auprès de la personne décédée, auprès de son corps.
Au moins de l'avoir.
Mais c'est un
besoin...
Alors
que pendant le confinement...
C'est un besoin qui n'est pas seulement psychologique, si vous voulez. C'est un besoin humain fondamental. Je rappelle toujours que l'humain est la seule espèce vivante qui enterre ses morts, qui fait des sépultures. Nous sommes les seuls. Donc, le mort, le traitement du mort est une marque de notre propre humanité. Et en empêchant, en interdisant aux familles de voir les corps morts, au prétexte qu'ils pouvaient être contagieux, je crois qu'on a atteint notre ouais. propre humanité. Et on n'a fait faire aucune recherche, justement, sur la contagiosité des personnes décédées du virus. Pourquoi ? Pourquoi les médecins légistes n'ont pas été associés à la oui. commission scientifique ?
Oui, au conseil scientifique.
Conseil scientifique, les médecins légistes, les psychiatres, les psychologues, les médecins généralistes. C'est on vrai. A fait la médecine virale et on a laissé de côté la médecine globale.
Alors, pour revenir à la médecine légale, elle a vraiment évolué ces dernières
oui.
années.
Bien sûr.
Les nouvelles technologies sont apparues. L'ADN, ça a été la révolution ?
L'ADN, ça a complètement transformé notre métier et ça a transformé aussi la scène du crime, ce qu'on appelle la scène du crime, parce qu'on a recherché cet ADN. Et on est devenu presque des scientifiques. C'est la police scientifique. Mais moi, je suis médecin. Et je suis médecin à part entière. Je suis pas médecin à part. Et dans mon métier de médecin, certes, il y a les arguments scientifiques, biologiques, mais il y a aussi la psychologie. Il y a aussi l'histoire des personnes, l'histoire humaine de ces personnes.
Qui peut d'ailleurs même aider à l'enquête. Qui peuvent aider à l'enquête, évidemment.
Bien sûr qu'ils aident à l'enquête.
Vous dites que ce qui a évolué, c'est... Vous dites que l'ADN, donc, il a amené à la prééminence de la preuve scientifique oui, alors, sur la valeur des témoignages.
Voilà, parce qu'avant, si vous voulez, la preuve, c'était le témoignage, c'était l'aveu, les aveux. On cherchait les aveux, d'ailleurs, les policiers avaient parfois des méthodes assez particulières pour obtenir les aveux. Tout ça a changé. Mais il ne faudrait pas que, parce qu'on retrouve un ADN, immédiatement, on a le coupable. C'est plus compliqué que ça, parce que dans un crime familial, par exemple, de retrouver l'ADN d'un proche, d'un parent, d'un enfant...
Oui, c'est presque
ça
normal.
Ça n'importe, au contraire. Bien sûr. Ne pas le trouver serait peut-être anormal. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué que ça.
Alors,
et si on veut déshumaniser, si on veut techniciser la médecine légale, je crois qu'on la déshumanisera. Mmh. Et ça, c'est une pente qui me
préoccupe. Est-ce que votre métier, il a été un petit peu, j'allais dire concurrencé, mais pas vraiment, par la police scientifique, en fait, qui est complémentaire de votre rôle.
Elle est complémentaire, elle a tout son rôle, mais ce sont des policiers. Nous sommes médecins, nous sommes indépendants. Je plaide pour notre indépendance par rapport à la police. Eh bien, puisque Monsieur le ministre de la Justice nous dit qu'il va travailler sur l'indépendance des magistrats, il faudrait qu'il pense à l'indépendance des médecins légistes. Et par exemple, à Paris, c'est un scandale que je dénonce depuis 30 ans. L'Institut médico-légal de Paris, où l'on traite les affaires les plus sensibles, les plus difficiles, aussi, quand il y a des manifestations, ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les violences policières, eh bien, cet institut de médecine légale est sous l'autorité du préfet de police de Paris. C'est un scandale. Et je le dis, il faut rompre ce lien.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Loïc Josserand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de santé publique à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et vous êtes président de Alliance contre le tabac. Bernard Basset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous aussi, médecin spécialiste en santé publique et président de l'association Addiction France. Alors, Loïc Josserand, donc, sur ce plateau, hein, vous êtes plutôt, on va vous dire, vous êtes plutôt côté tabac et vous plutôt côté alcool, même si vous faites les deux habituellement. Alors, Loïc Josserand, on est là pour dénoncer un peu quelques idées reçues. La première, c'est que près d'un Français sur trois fume.
Oui, effectivement.
C'est fou, quoi.
Bah, c'est encore quasiment un tiers de la population,
30%.
Alors un peu moins, voilà, qui fume encore. Effectivement, ça baisse, heureusement, ça diminue, mais on est encore à des taux qui restent élevés, quoi.
Et 24%, je lisais vos écrits, 24% donc fume quotidiennement.
Oui, tout à fait.
Et donc 75 000 décès.
Et 75 000 décès annuellement.
Alors on dit souvent
directement liés au tabac.
Oui, alors on dit souvent, l'idée reçue aussi, hein, c'est que le prix d'un paquet de cigarettes, il y a 90% de taxes. Et ces taxes, justement, sont une manne pour l'État qui va largement payer le coût de la santé due aux pathologies du tabac.
Alors ça, c'est vraiment une idée reçue complètement fausse, puisque effectivement, s'il y a c'est une part importante de taxes qui fait le prix du paquet, ce qui représente à peu près 15 à 16 milliards d'euros par an, le coût pour la société du tabac annuellement est de l'ordre de 120 milliards d'euros quand on monétise l'intégralité du coût entre les années de vie perdue.
Entre les coûts directs et les coûts indirects,
les coûts directs, indirects, quand on met tout bout à bout, ça coûte 120 milliards d'euros par an.
Et même les coûts directs. Les coûts directs.
Et on est, alors sur la prise en charge sanitaire à proprement parler, on est autour d'un peu plus de 30 milliards d'euros.
Quoi. Oui, donc on est loin, on est très loin des 16 milliards.
Voilà. Dans tous les cas, ça coûte beaucoup plus cher que ça ne rapporte.
Donc il faudrait donc, le prix d'un paquet beaucoup plus.
Donc il faudrait un paquet autour de 45 euros si on voulait équilibrer ses coûts. Alors c'est une vraie révolution, mais peut-être qu'il y aurait aussi beaucoup de monde qui fumerait, que ça nous coûterait du coup aussi beaucoup moins cher.
Ouais. Sauf que c'est pas interdit le tabac.
C'est pas interdit.
Ouais.
Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est effectivement c'est un produit légal qui est dont la vente est organisée.
C'est pour ça qu'il y a un certain paradoxe quoi. C'est pas interdit, mais.
C'est pas interdit, on va dire historiquement. Ça serait un produit qui arriverait aujourd'hui et qui serait mis aujourd'hui sur le marché. Je pense qu'il aurait beaucoup plus de mal à s'imposer qu'il ne l'a fait il y a de ça une centaine d'années. Quoi. C'est pas non plus un produit très vieux. Hein. C'est les cigarettes roulées, c'est le début du XXe siècle. Hein. Mm-hmm. Avant, ça n'existait pas. Quoi.
Bernard Basset, donc. Alors évidemment, je suis cardiologue, hein, je suis bien passé pour savoir qu'il n'y a pas de consommation modérée de tabac, ça n'existe pas. Tandis qu'on pourrait penser qu'avec avec l'alcool, le vin rouge, une consommation modérée, c'est pas si mauvais que ça pour la santé.
Eh bien, malheureusement, si. Il n'y a jamais de consommation d'alcool sans risque. Et c'est vrai que cette idée reçue hein, du petit verre bon pour la santé, du petit verre de rouge, effectivement, a été battue en brèche par les connaissances scientifiques, en particulier les plus récentes. Il y a eu une méta-analyse sur 28 millions de
personnes.
Sur
certains alcools ou sur tous les alcools ?
Sur tous les alcools. Tous les alcools, que ce soit de la bière, du vin, des spiritueux, ils contiennent tous de l'alcool. Et c'est l'alcool, lui, qui est dangereux pour la santé. Donc, en fait, il n'y a jamais de consommation sans risque. Évidemment, si on consomme peu,
il faut arrêter de boire.
Si vous voulez, je pense que ce qui compte pour l'alcool, c'est de garder la maîtrise de sa consommation. On est dans une problématique un peu différente du tabac. Le tabac, on vise évidemment une consommation zéro. On cherche à se débarrasser du tabac. Pour l'alcool, on veut réduire les risques. C'est essentiellement ça. Donc, réduire les consommations.
Parce qu'on a quand même un patrimoine viticole... important.
Eh bien, le patrimoine, faut le mettre en rapport avec les dégâts pour la santé. On peut faire la même analyse que ce qu'a fait Laurent. Hein. Le coût social de l'alcool, c'est aussi 120 milliards d'euros par an. Et les taxes sur l'alcool ne compensent que 40% des dépenses de soins.
Ouais. Autre idée reçue. Là aussi, je suis bien passé pour savoir. Beaucoup de gens pensent que le sport compense, l'activité physique compense les méfaits du tabac.
L'activité physique ne compense en rien l'activité tabac. La difficulté, c'est qu'effectivement, notamment chez les jeunes, quand ils se mettent à fumer, ils ont un potentiel santé qui est tel qu'ils arrivent sans aucune difficulté à compenser les premiers effets du tabac. Ils courent aussi vite que le copain qui a le même âge, ils courent aussi longtemps, etc. Donc ils disent, moi, le tabac, finalement, l'effet, c'est
alors que c'est du long terme.
Alors que c'est du long terme. À 25 ans, ils courront peut-être déjà un peu moins vite, à 35 carrément beaucoup plus, et à 45 ils courront plus du tout quand le copain il continuera encore à faire 20 km quoi.
Évidemment.
Donc ça s'inscrit dans le temps et c'est la durée de consommation qui est absolument redoutable quoi.
Bernard Basset, donc cette loi E20, elle a été salutaire pour la santé des Français. Elle a été copiée dans les pays européens ou alors elle existait déjà? On a tendance à penser que les pays scandinaves sont déjà en avance sur nous.
C'est une loi extrêmement courageuse de santé publique et c'est vrai qu'elle fait c'est le modèle pour un certain nombre de pays européens. Nous, on a des collègues dans d'autres pays, si seulement on avait une loi E20. C'est ça le refrain. Alors, il y a des pays qui s'engagent maintenant dans cette voie-là. Alors, il y a l'Irlande qui vient d'interdire les promotions, les prix cassés pour l'alcool. Il y a l'Écosse qui a introduit un prix minimum, donc qui joue sur les taxes et sur le prix des produits, justement, pour faire baisser la consommation. Et il y a un certain nombre de pays qui prennent des parties de la loi E20. Mais c'est vrai qu'il y a
Mais on peut pas dire qu'il y a une harmonie européenne.
Ah non, sur le sujet.
Sur la gestion du tabac et de l'alcool.
En tout cas, sur le tabac.
On n'est pas sur le chemin.
Non. Alors, sur le chemin, ça je sais pas, et on essaye de l'être. Il y a des directives européennes, effectivement, qui essayent d'encadrer la publicité, qui essayent d'encadrer la composition des produits, etc. Donc ça, il y a des choses qui avancent. Il y a un lobby très fort des industriels contre ces directives européennes, ça c'est évident. Mais on n'est pas encore à une harmonisation. Les prix sont très différents d'un pays à l'autre. La publicité est autorisée dans certains pays, alors qu'elle est interdite en France. Donc de ce point de vue-là, et la loi E20 fait rêver tous les acteurs de la prévention et du contrôle du tabac, fait rêver tous les acteurs européens. Quoi.
Alors en plus de la publicité, évidemment, c'est le prix du tabac. On dit que ça vraiment le prix influence le comportement, aussi bien pour le tabac que l'alcool, hein, vous me répondrez.
Le prix est un des moteurs principaux. principaux, pardon, pour faire pour lutter contre le tabac. C'est évident, hein. C'est, et notamment chez les jeunes, parce qu'il faut pas se tromper de cible non plus. Hein. Les industriels qui visent, ce sont les jeunes. Il faut remplacer les fumeurs qui décèdent. Hein. Et les fumeurs, on va pas aller les chercher. Ils vont pas commencer à 50 ans. Mm-hmm. Ils vont commencer quand entre 15 et 17 ans.
Bien sûr.
Donc toute la publicité aujourd'hui, il y a plus de publicité, mais toute cette publicité indirecte qu'on voit à travers le cinéma, à travers les réseaux sociaux, qui elle échappe complètement au contrôle, est toujours très valorisante pour le tabac. Quoi. Et c'est là qu'on attrape les jeunes de 15-17 ans qui vont
fumer. Le vapotage aussi, ça peut être un piège, ça peut être
être un tremplin quand on est sur des jeunes enfants qui n'ont jamais touché à quoi que ce soit avant, qui se mettent à vapoter, à utiliser des produits qui contiennent de la nicotine, et là c'est potentiellement une porte d'entrée.
Évidemment. Alors autre idée reçue aussi, donc le tabac roulé, la chicha.
Tout ça, c'est du pareil au même. Les effets sont les mêmes, y compris la fameuse cigarette chauffée, le tabac chauffé que les industriels vendent aujourd'hui comme étant un produit à réduction de risque. C'est absolument pas une réduction de risque, c'est toujours le même risque.
Bernard Bassier, donc pour l'alcool aussi, le prix est un frein parce qu'on trouve toujours de la piquette à 3 euros la bouteille.
Oui, c'est vrai que les prix d'appel bas. Incite à la consommation des jeunes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont bas. Donc nous, on a évidemment.
Ouais, mais c'est toujours pareil. Donc ce sont les riches qui vont pouvoir s'acheter des bouteilles de qualité, et les moins riches qui vont utiliser et être plus malades. C'est toujours pareil, hein.
Oui, alors effectivement, il y a des inégalités sociales dans les consommations, que ce soit de tabac ou d'alcool. Hein. Plus on est bas dans l'échelle sociale, plus on est en situation de précarité, plus on est exposé à la consommation du tabac et de l'alcool.
Ouais.
Le prix est effectivement un moyen de renverser ces inégalités sociales.
Merci beaucoup Loïc Josserand, merci beaucoup Bernard Basset. On fera une émission, je vous le promets, entière autour de ce sujet. Alors, avant d'accueillir Alexandre Martel et son congrès du 26 janvier sur l'impression 3D, on va accueillir Olivier Robichon, rédacteur en chef et directeur de la revue Prescription Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Bonjour Olivier Robichon.
Bonjour Fabien.
Bonne année, bonne santé.
Ah, bonne année.
Évidemment. Alors, il y aurait justement, ça commence bien peut-être, on a un espoir pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Effectivement. Le seul problème, c'est que ça fait peut-être la 30e ou 40e fois qu'on dit ça au cours des 10 dernières années. Donc, on finit par se méfier.
Parce que c'est vrai que rien n'a jamais marché jusqu'à présent.
Ah, absolument. En France, c'est 18% des personnes de plus de 75 ans, 1 million de personnes. C'est 50 millions de personnes au niveau de la planète. Et c'est surtout 80 millions de personnes à l'horizon 2040. Quelque part, ce sont ces chiffres-là qui sont la meilleure chance pour les malades, parce que c'est un marché potentiel fantastique pour les industriels du médicament. Enfin, c'était parce qu'il y a eu d'énormes échecs au cours des 10 dernières années, une véritable hécatombe de candidats traitements, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très très méfiant. Et en fait, on a presque tendance à suivre aujourd'hui les investisseurs qui sont peut-être les mieux informés, et notamment quand les investisseurs réagissent, on se dit qu'il y a peut-être un espoir, et là, il y a peut-être un espoir.
D'accord, donc ils sont 5 ou 6
Oui. Il y a à peu près 5 ou 6 aujourd'hui, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment sur
cette fois, c'est le cas, ça se passe à Indianapolis,
leur laboratoire.
Aux USA, bien sûr.
Eli Lilly, qui a fait une étude sur 275 patients, et des résultats qui sont franchement significatif, avec une baisse de 30% des dégradations de fonctions cognitives et vitales. Ce qui est très significatif également, c'est la réaction des places boursières. Hein. L'action Lilly, en 2-3 heures, a gagné 14%. Alors du coup, effectivement, on se dit qu'il y a peut-être une bonne piste.
Alors qu'est-ce qui est différent cette fois-ci ?
Alors, il y a vraiment quelque chose qui est différent, c'est qu'en fait, l'essai Lilly valide une piste importante que d'autres suivent. C'est une piste qui semble être validée, c'est celle d'une protéine qui s'appelle, je lis, hein, parce que la bêta-amyloïde,
très connu,
qui se fixe sur les neurones, et les résultats sont effectivement très parlants.
Oui, mais on reste encore loin d'un lancement sur le marché.
Oui et non. Parce qu'en fait, cette validation de piste, elle joue le jeu d'un autre laboratoire qui est Biogen, qui lui a développé une molécule qui marche à peu près de la même manière, l'aducanumab. Dans un premier temps, ils avaient retiré le dossier, puis ils l'ont remis. Et là, ils ont déposé un dossier à la FDA il y a quelques mois. Il y a un premier avis qui est tombé du côté de la FDA, qui était très volontaire, très positif. De l'autre côté, il y a des experts qui étaient un peu plus mesurés. On attend une réponse pour le mois de mars, mais c'est vrai que ces résultats d'Eli Lilly jouent plutôt en faveur
de Biogen.
Voilà, de la piste de Biogen. Tout à fait.
Eh ben parfait.
Eh ben oui, on aura la réponse très vite chez Biogen. Je vous dis début du mois de mars. Et puis Lilly relance une nouvelle étude sur 500 personnes. Il faut avoir des vraies cohortes, mais c'est une vraie piste.
Grand espoir, grand espoir. Merci Olivier Robichon.
Je vous en prie, Fabien.
On va accueillir à présent Alexandre Martel, qui est le fondateur de 3D Native.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Alexandre Martel, bonjour.
Bonjour Fabien.
Vous êtes fondateur de 3D Native, qui est le plus grand média international consacré à l'impression 3D. Très fort quand même.
C'est gentil.
Et surtout, merci. Vous lancez, ce qui est extraordinaire, vous lancez donc le premier salon dédié à l'impression 3D dans le domaine médical.
Exactement.
C'est le 26 janvier, on va en reparler. On va en parler. Donc, l'impression 3D, évidemment, c'est la révolution de cette dernière décennie. Ça représente un marché énorme, j'imagine.
Oui, alors c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars estimés. Et le médical en tant que tel, c'est 3,6 milliards d'ici 5 ans.
D'accord, donc c'est énorme. C'est-à-dire les boîtes ont compris...
C'est un gros marché constitué de fabricants. Il y a tout l'aspect matériaux aussi qui est important. Il y a plein de boîtes de services. C'est un vrai écosystème à part entière.
Donc la définition rapide de l'impression 3D.
L'impression 3D, c'est un outil de fabrication additif. D'où le nom de notre événement sur lequel on va revenir. C'est de la fabrication additive. On va uniquement utiliser la quantité de matière dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment une nouveauté avec plein d'avantages qu'on va retrouver dans cette technologie.
D'accord. Et on sait que on peut évidemment imprimer des objets, notamment dans le médical évidemment, mais aussi des tissus vivants.
C'est ça. Donc ça reste principalement de la recherche, mais on y vient de plus en plus, et surtout on a deux belles boîtes en France, Poietis et 3D Fab.
Qu'on a déjà d'ailleurs invité dans Check-up Santé, deux fois même Poietis, qui est extraordinaire. Donc cette impression 3D dans le médical, ses avantages, c'est quoi ces avantages de cette impression?
Alors déjà, ça va être la personnalisation au patient. On sait à quel point c'est important dans le domaine de la médecine. Il y a encore beaucoup de choses qui sont uniformisées, beaucoup de dispositifs médicaux qui vont être les mêmes pour tout le monde. L'idée, c'est que demain, on puisse vraiment l'adapter au patient, à chaque patient, au sexe, au poids, à l'âge, typiquement.
Plutôt que de fabriquer un moule qui coûte très cher, c'est ça, non, en général?
Exactement, et puis ça prend du temps. Et puis, il ne faut pas se tromper sur le moule, parce que sinon, on doit tout recommencer à zéro. L'impression 3D, il nous faut juste un design 3D. Et une fois qu'on a le design, on va... Ce qu'on a souvent en médical, parce qu'on a toute l'imagerie qu'on connaît, on va changer ce design, on va l'adapter au patient, on va l'envoyer à l'imprimante 3D, et quelques heures plus tard, on a le modèle. Si ça ne va pas, on recommence, et le lendemain, on a le nouveau modèle.
Et en plus, c'est écolo.
C'est écolo, ça répond aussi à un besoin, ça répond à l'urgence, donc ça permet d'être très réactif. C'est pour ça que notamment pendant la crise du Covid, on en a beaucoup parlé, il y a une très belle visibilité sur cette technologie, parce qu'elle a été énormément employée, cette technologie, pour fabriquer des visières, pour fabriquer des adaptateurs. On a vu à l'hôpital Cochin à Paris, ils ont installé une ferme d'imprimantes 3D au sein de la chapelle. Je pense que c'est quelque chose que vous aviez couvert, mais voilà, un petit aperçu de ce qui peut se faire.
Sauf qu'on est dans le domaine de la santé, donc c'est un domaine un peu touchy. Il faut être sûr, il faut être secure, il faut être safe, etc. Et des imprimantes 3D, il y en a de toutes sortes.
Voilà, il y a pas qu'une seule technologie. On voit quelques images en arrière-plan. C'est pas qu'une seule technologie, c'est une famille de technologies. Il y a effectivement des technologies qui sont plus adaptées au médical. Il y a des matériaux qui sont adaptés, qui sont certifiés pour le médical, qui vont être biocompatibles. Notamment, on pense souvent au titane pour les implants qu'on va pouvoir implanter directement dans le patient. Voilà, il y a bien évidemment des normes, des certifications à respecter.
Oui, mais donc il y a des imprimantes à 200 euros et d'autres à 1 million d'euros, j'imagine.
C'est ça. En fonction de la technologie, en fonction du matériau sur lequel on va vouloir imprimer, on va pas avoir les mêmes coûts, mais les prix ont énormément baissé.
Et sauf qu'il y a des raccourcis, je veux dire, au niveau par exemple des certifications. Vous avez votre imprimante 3D, vous fabriquez ce que vous voulez, personne ne va certifier ce que vous avez fait.
Alors ça dépend quel type de pièce. Bien sûr, on va pas implanter une pièce qu'on a fait sur une petite imprimante made in China qui va valoir 200 euros, qu'on a imprimé avec un plastique de type PLA, ABS et qu'on a fait à la maison chez soi.
Alors votre salon, pour revenir à votre salon, donc gros événement, c'est la première fois que ça...
C'est une première en France. Il y a un vrai engouement et on s'est dit que c'était le bon timing pour créer Additive Médicale, c'est le nom du salon.
Additive, les différentes couches d'impression 3D,
Additive, pour fabrication additive, Additive Médicale France. On aura sur la journée plus de 30 intervenants issus de différentes spécialités. on va avoir la maxillo, on va avoir l'ORL, on va avoir le dentaire, c'est un gros secteur le dentaire. Et surtout des applications très variées. On va avoir tout ce qui est planification avec des modèles anatomiques, avec des guides de chirurgicaux. On va avoir le bioprinting que vous avez cité. On va avoir des implants, vraiment, qu'on va implanter. Donc là, effectivement, on en revient à la certification. On va avoir les orthèses. Voilà, il y a beaucoup de domaines d'application variés dans le métier.
Beaucoup d'inscrits déjà, non ?
Alors, on attend plus de 1000 inscrits. Et là, on n'est pas loin.
Et j'allais dire, hélas, on va faire avec. Mais cette année, c'est en distanciel ?
C'est ça, c'est en distanciel. Alors, on utilise un super outil qui permet à la fois de suivre des conférences, mais aussi de faire du networking.
Oui, les gens auront l'impression d'être en présentiel.
Alors,
c'est
pas aussi riche que des échanges qu'on peut avoir. On va pas pouvoir toucher les pièces. Mais on a tout fait pour que ça s'en rapproche, en tout cas. L'idée, c'est d'en faire un événement récurrent qui pour fédérer vraiment cet écosystème. Parce qu'il y a, encore une fois, il y a un vrai engouement. Il y a les praticiens qu'on a invités à l'événement seront déjà hyper contents alors que le salon n'est pas encore passé.
Et c'est gratuit ?
C'est gratuit.
Et c'est ouvert à tout le monde ?
C'est ouvert à tout le monde.
Pas seulement le milieu médical ?
Non, bien évidemment que non. Mais voilà, ça concerne quand même ce milieu qui reste d'une certaine manière un petit milieu. Ça reste des sujets assez techniques. Bien sûr. On va parler de certification, on va parler de technologie. Mais bien évidemment, c'est ouvert à tous.
Eh bien, on souhaite un gros succès à votre premier salon d'impression 3D dans le domaine médical.
Merci.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à William Baudry, sans qui l'émission ne serait pas. On se retrouve la semaine prochaine.